c'est jusqu'à 18h, Intégral Tour.
Fantastique, merci messieurs. On vous retrouve évidemment tout à l'heure pour débriefer ce qui s'est passé. On rappelle la victoire de Vettel et le podium de Romain Grosjean. On écoutera tout à l'heure la réaction de Romain sur le podium de ce Grand Prix d'Allemagne. Retour ici sur la 9e étape du Tour de France. La dernière difficulté du jour a été avalée par les coureurs il y a quelques instants. Mais nous ne sommes toujours pas à l'arrivée. Il reste un peu plus de 20 km. Le top course complet avec Fred Adam.
RMC Top Course.
24 km à parcourir pour un duo de tête. Ce duo qui s'est extrait du groupe maillot jaune dans la Hourcade dans 6 ans. L'Irlandais Dan Martin de l'équipe Garmin Sharp et Jakob Fuglsang, le Danois leader de l'équipe Astana. Il compte une trentaine de secondes d'avance sur un homme intercalé, le Hollandais Wouter Poels, et 50 secondes sur le groupe maillot jaune où l'on trouve une vingtaine de coureurs dont Alberto Contador, Andy Schleck, Cadel Evans, Jean-Christophe Perrault, Bock Mollema, Alejandro Valverde et Nairo Quintana, les deux équipiers de la Movistar, et évidemment un Français, un seul, Jean-Christophe Perrault. Perrault, meilleur Français du général, 18e ce matin au général. Le grand battu du jour s'appelle Richie Porte, l'Australien.
Fred, il y a deux hommes qui tentent de s'extraire dans la descente, hein, qui tentent de fausser compagnie à Chris Froome, hein, deux équipiers de la Movistar, me semble-t-il.
Ce sont Rui Costa, le coureur portugais de la Movistar, qui devance le maillot blanc Nairo Quintana. Alejandro Valverde est en embuscade, mais ce sera dur de fausser compagnie à Christopher Froome, Alberto Contador ou Andy Schleck dans cette descente très roulante. Magnifique Hourcade dans 6 ans, arrivé à 23 km désormais pour les deux hommes de tête, le Danois Fuglsang et l'Irlandais, le grimpeur de talent Dan Martin, vainqueur de Liège-Bastogne-Liège au printemps dernier.
Voilà, arrivé donc dans une petite dizaine de minutes ici à Bagnères-de-Bigorre pour cette 9e étape du Tour de France. Nous y revenons évidemment dans quelques instants. À tout de suite.
Intégral Tour, Christophe Cessieux.
Les 20 derniers kilomètres de cette 9e étape, on y revient dans un instant. Auparavant, un point sur la finale du tournoi de Wimbledon entre Andy Murray et Novak Djokovic. Où en est-on, Eric Salio?
Ah, c'est très serré, hein. 36 minutes de jeu, 3 jeux partout entre les deux prétendants au titre. C'est Andy Murray qui avait pris le meilleur départ, mais Djokovic a immédiatement débreaké. Mais le Serbe ne semble pas au mieux puisqu'il est mené 0-40 sur sa mise en jeu. Donc 3-3, 0-40, Andy Murray peut-être en passe de prendre un avantage, non pas définitif, mais intéressant dans ce milieu de première manche.
Merci Eric, à tout à l'heure. Tu auras un peu plus de temps évidemment dans quelques instants après l'arrivée notamment de cette 9e étape du Tour de France. Je vous rappelle également l'arrivée du Grand Prix d'Allemagne de Formule 1 et la victoire de Sébastien Vettel devant Kimi Raikkonen et Romain Grosjean qui va monter sur le podium dans quelques instants et dont on écoutera la première réaction dans quelques minutes. Auparavant, nous sommes à 19 km de l'arrivée de cette 9e étape du Tour de France, 2e étape des Pyrénées. Il s'est passé beaucoup de choses aujourd'hui. Fred, nous sommes donc à moins de 20 km de l'arrivée et pour l'instant, deux hommes en tête, mais ce sont des seconds couteaux. Hein.
Deux hommes qui profitent de l'attentisme, va-t-on dire, des rivaux de Christopher Froome dans cette fin d'étape, dans les derniers cols, parce que, on le rappelle, cette 2e étape pyrénéenne a été marquée par des assauts répétés, notamment par les Movistar d'Alejandro Valverde en début d'étape. Il y en avait partout, notamment dans les vallées avant les cols, avec un mano à mano entre Froome et Contador. Tout est rentré d'alerte finalement à mi-course, mais aujourd'hui, eh bien, deux hommes sont en train de profiter d'un groupe maillot jaune groupé où l'on a un Christopher Froome esselé. On le rappelle, tout au long de la journée, le leader du classement général était le seul Sky dans le groupe de favoris où l'on comptait entre 20 et 30 coureurs. Désormais, ces deux hommes s'appellent Dan Martin, l'Irlandais, et Jakob Fuglsang, le Danois. Il compte à 18 km 500 de l'arrivée à Bagnères-de-Bigorre, 40 secondes d'avance sur un groupe maillot jaune emmené par les Movistar d'Alejandro Valverde. Valverde qui a profité de la journée pour isoler et faire perdre toute chance au classement général à Richie Porte, le dauphin de Christopher Froome ce matin, son équipier chez Sky. Richie Porte qui est passé par la fenêtre, c'est le cas de le dire, et qui navigue désormais en haut de la Hourcade dans 6 ans, qu'il vient de terminer à 12 minutes du groupe maillot jaune.
12 minutes, c'est terminé pour Richie Porte qui servira sans doute d'équipier modèle dans les Alpes, hein, parce qu'évidemment ce Tour de France n'est pas terminé. Pour la deuxième place, ce sera compliqué. Et les adversaires de Chris Froome qui avaient pris un gros coup sur la calebasse hier ont réagi aujourd'hui. Malgré tout, Cyril, c'est vrai qu'après le départ de cette étape, on espérait peut-être un peu plus. On espérait que les adversaires de Froome placent plus d'attaques dans les dernières difficultés du jour, mais ils n'ont pas réussi à le faire. Et du coup, Chris Froome va rester en jaune largement ce soir. soir.
Oui, c'est vrai que nous étions partis sur des bases très très hautes, très fortes, et on pouvait se poser la question de savoir si si Froome serait encore maillot jaune ce soir. Je crois qu'on ne se la pose plus, puisque l'équipe Movistar a préféré jouer la carte de deuxième au classement général plutôt que de tenter des opérations, alors qu'ils en avaient la possibilité avec Rui Costa, avec Valverde et avec Quintana. Eh bien, ils ne l'ont pas fait. Au contraire, ils ont même fait rouler Quintana, alors qu'il est placé au classement, par exemple, de la montagne. Il n'a même pas fait les points au sommet des cols. Donc, l'objectif simple était simple. C'était amener Valverde à la deuxième place. Et c'est dommage parce que la course aurait eu un autre visage s'il n'avait pas pris cette option.
Oui, c'est-à-dire que tu penses que chez Movistar, on vise la deuxième place sur les Champs-Élysées dans 15 jours, Cyril, et rien d'autre ?
Ah ben, je ne sais pas s'ils visent que ça, mais une chose est certaine, ils visent pas le classement de la montagne, ça c'est clair.
Ouais.
Et d'autre part, ils n'ont pas essayé de déstabiliser le maillot jaune alors que c'était possible, compte tenu de leur surnombre. Moi, j'ai plutôt l'impression que faire deuxième, ça leur suffit largement.
Donc déçu finalement.
Ah, très déçu.
Ah oui, il y a très déçu le druide.
Messieurs, on est encore à 2 semaines de l'arrivée sur les Champs-Élysées, et être deuxième au bout de la première semaine ne signifie pas que l'on sera deuxième sur les Champs-Élysées. Tout peut arriver dans une course de vélo.
C'est vrai, Frédéric, on peut aussi finir 15e et non pas 2e.
Bien sûr, mais le maillot jaune peut le perdre, si ce n'est sur sa valeur pure, son niveau de forme actuel, sur un incident mécanique, sur une chute ou sur un jour sans. Ça arrive même au meilleur. Richie Porte l'a montré aujourd'hui, il était dans un jour sans, il paye la note très salée. C'est pas mal pour les Movistar d'avoir un homme deuxième en embuscade au classement général.
Évidemment, Luc, déçu toi aussi par ce qui s'est passé finalement dans les dernières ascensions du jour. On s'est emballé ce matin, on était comme des fous quand on a vu la première ascension du jour, le col du Portet d'Aspet. On s'est dit ça va être une journée extraordinaire, et finalement la montagne pyrénéenne accouche d'une petite souris.
Non, moi je suis pas déçu du tout, parce que je m'attendais pas du tout à voir une journée comme celle d'aujourd'hui, hein, avec plusieurs attaques, plusieurs échappées, Froome complètement isolé qui n'a plus un équipier, et comme l'a dit Fred tout à l'heure, il reste encore 15 jours. Et quand on regarde le programme des 15 jours qui arrivent, avec il y a des chronos certes qui seront avantageux pour Froome, mais il faut pas oublier les Alpes avec le Ventoux, l'arrivée au sommet du Mont Ventoux, c'est pas rien non plus. Deux fois monter l'Alpe d'Huez, c'est pas rien non plus. Et si Froome se trouve isolé à ces moments-là, sans équipier, avec des Quintana, peut-être un Contador revigoré après peut-être une quinzaine de jours de course, vous savez, il peut se passer plein de choses encore. Froome n'a pas gagné le Tour, même s'il a fait une très très belle performance dans l'étape d'hier.
Voilà, belle performance dans l'étape d'hier, belle performance également aujourd'hui, Fred, parce qu'il a contrôlé tranquillement, hein, sans s'énerver. Il était tout seul pourtant, il aurait pu s'inquiéter.
Il a été bluffant, même quand à 120 km de l'arrivée, il était harcelé par Alejandro Valverde et ses équipiers, Ruben Plaza par exemple, dans la vallée. Il a répondu aux attaques en ciblant les coureurs auxquels répondre. Il avait parfaitement identifié les dangers, et en distillant, en distribuant les tickets de sortie, il s'est comporté en parfait gestionnaire. Absolument aucun signe de panique. Il a pris les roues qu'il fallait prendre, le Britannique, avec le maillot jaune sur le dos. Il découvre le maillot jaune. C'est la première journée de sa carrière qu'il vit dans la peau d'un leader du Tour de France, Christopher Froome, qui a montré que même sans équipier chez Sky, il était capable de passer une journée sans risque, ou presque.
14 km de l'arrivée, donc deux hommes en tête. Le peloton maillot jaune est en chasse avec un retard de 34 secondes. On se retrouve dans quelques instants pour l'arrivée de cette 9e étape.
Intégral Tour, Christophe Cessieux.
Il est 16h sur RMC. Les infos, vous les retrouverez tout à l'heure dans une petite heure, car c'est chaud sur la route du Tour aujourd'hui. 9e étape entre Saint-Girons et Bagnères de Bigorre. Nous sommes à 11 km de l'arrivée. Deux hommes sont en tête. Le peloton maillot jaune est un petit peu plus loin. Et rien n'est fait pour la victoire d'étape. Le Top Course avec Frédéric Adam.
RMC Top Course.
Un duo de tête composé de l'Irlandais Dan Martin, grimpeur de l'équipe Garmin Schaap, vainqueur de Liège-Bastogne-Liège au printemps dernier, et du luxembourgeois, du danois, Jakob Fuglsang, leader de l'équipe Astana, ancien coéquipier des frères Schleck chez Radio Schaap, passé sous Kazakh, 10 km 500 de l'arrivée. Ces deux-là comptent 25 secondes d'avance sur un groupe maillot jaune où l'on trouve tous les favoris, sauf Le grand battu du jour, il s'appelle Richie Porte. Il navigue à 13 minutes dans le groupe maillot jaune. On trouve les Movistar, les coéquipiers d'Alejandro Valverde qui ont roulé toute la journée et qui continuent de chasser derrière les deux hommes de tête. On pense désormais à la victoire d'étape, à défaut d'avoir mis en difficulté le porteur du maillot jaune, Christopher Froome, esselé toute la journée en direction de Bagnères de Bigorre.
10 km de l'arrivée.
RMC, les 10 derniers kilomètres.
Voilà, les 10 derniers kilomètres de cette 9e étape. Autre battu, mais il avait déjà été battu hier, c'est Thibaut Pinot qui une nouvelle fois est passé à côté. Il ne semble plus du tout y être, dans sa tête en tous les cas. Il a été complètement abattu hier après sa contre-performance et il semble payer encore une fois aujourd'hui, Fred. Hein.
Victime du fou début de course aujourd'hui, dès la sortie de Saint-Giron. La course a été folle et il n'a pas résisté aux multiples attaques du début de course, Thibaut Pinot qui n'y était pas effectivement. Il y a deux Français dans le groupe maillot jaune composé de 21 coureurs. Ces deux Français portent le même maillot, celui de l'équipe AG2R La Mondiale. Ce sont Jean-Christophe Perrault qui était le meilleur Français ce matin, 18e du classement général, et son coéquipier donc Hubert Dupont. On a longtemps vu aujourd'hui à l'avant de la course un autre AG2R La Mondiale en la personne du néophyte Romain Bardet, mais pas de Thibaut Pinot et pas de Pierre Roland non plus. Pierre Roland qui a été lui aussi longtemps échappé et qui a fait la rafle des points du meilleur grimpeur, son objectif à celui qui a terminé 8e et 10e des deux derniers Tours de France est clair, c'est celui du classement du meilleur grimpeur. 20 coureurs dans le groupe maillot jaune à 26 secondes du duo tête dans le groupe maillot jaune. On trouve notamment Froome donc, Evans, Andy Schleck, Alberto Contador, Cadel Evans, Joaquin Rodriguez, le Hollandais Mollema, Alejandro Valverde et ses équipiers Rui Costa, Unairo Quintana, un groupe de 20 coureurs. On trouve donc seulement deux Français, Perrault et Dupont.
Voilà, Perrault et Dupont et cette équipe AG2R qui remonte le moral des troupes françaises. Le moral un peu atteint notamment du côté de la FDJ.fr parce que la contre-performance de Thibaut Pinot est terrible. On a vu tout à l'heure Arthur Vichot, le champion de France, qui a longtemps été dans le groupe maillot jaune, mais lui aussi a fini par céder. Thibaut Pinot qui est au fond du trou. On en parlera peut-être avec Marc Madiou. 8 km de l'arrivée, Lucho, nous sommes dans la descente, quel est ton favori donc pour la victoire d'étape? Est-ce que tu penses que ça va jouer avec les deux de tête ou le groupe maillot jaune?
Il y a encore une possibilité, 29 secondes, encore 8 km de course, ça roule très très fort derrière, il suffit que les deux hommes de tête se regardent un petit peu et ça peut revenir. Moi je le dirais, je donnerais bien comme favori Valverde, parce que dans ce groupe maillot jaune, je crois que c'est lui qui est peut-être le plus rapide du groupe, donc avantage à Valverde pour la victoire sur cette étape.
Cyril, toi aussi tu fais de Valverde ton favori dans ce final pour cette victoire d'étape?
Il aura fort à faire avec Diarkowski, le Polonais de l'équipe Quick-Step. Rappelez-vous qu'il va très vite et qu'il se mêle très souvent aux arrivées massives. Donc rien n'est fait pour Valverde, même s'il a beaucoup plus d'équipiers pour l'emmener. Mais ses équipiers, il les a beaucoup fait travailler derrière l'échappée tout à l'heure de Bardet, entre autres, et de notre Pierre Roland, de notre maillot de la montagne, sans jamais attaquer le maillot jaune. Et je pense que c'est quand même une grosse erreur quand on peut mettre un leader comme Froome, lui reprendre du temps, c'est quand même toujours un avantage. Rester à une minute derrière, ça n'est quand même pas un avantage. Il y a quand même le contre-la-montre et je pense qu'on l'a oublié. Mais Miguel, l'ancien directeur sportif Etchevarri, n'est plus à la tête de cette équipe.
Ah oh oui, et la stratégie a peut-être
énormément changé.
Pris un coup dans l'aile.
Oh là là. Oh,
on sent qu'il est déçu, notre druide. Hein.
Il ah oui, oui, non, mais moi jamais j'ai fait courir comme ça. Enfin, ouais. Moi, chaque fois que j'ai des équipes qui ont couru comme ça, je me suis frisé les moustaches. Hein.
Ouais. Et il doit se friser les moustaches chez Sky avec Bryce Ford.
Ah ouais, là, il faut se friser les moustaches.
Hein. Il se frise les moustaches d'abord parce qu'il n'a pas un poil sur le caillou, Dale Bryce Ford. Ouais. Et puis en plus, les Sky ont quand même vécu une journée difficile, hein, Fred.
Je pense qu'ils ont bien serré les fesses et qu'ils commencent à se décontracter à défaut de se friser les moustaches.
Ouais,
c'est vrai qu'avec un Christopher Froome totalement esselé tout au long de la journée, les Sky ont pris l'eau après avoir martyrisé la concurrence hier en direction d'Axe 3 Nomen. Et bien Dave Brailsford, le manager britannique de cette équipe Sky, peut se féliciter d'avoir en Christopher Froome un coureur non seulement au-dessus du lot physiquement, mais qui tactiquement n'a fait aucune faute aujourd'hui et surtout nerveusement a su se contrôler, a su parfaitement jouer le coup.
Alors évidemment hier la suspicion a commencé à s'installer après la performance des Sky. Sky. Aujourd'hui, voir une défaillance après seulement une étape de montagne, voir la défaillance d'un garçon comme Richie Porte, Cyril, c'est plutôt encourageant. Ou alors c'est du cinéma, mais franchement, le voir
aujourd'hui. On fait pas du cinéma,
je ne pense pas, hein.
On fait pas du cinéma à ce niveau-là. Non. Bon, les coureurs ont. La Sky hier a roulé toute la journée. Bah, aujourd'hui, ils payent l'addition.
Oui, mais il y a quelques années, il y a des équipes qui roulaient toute la journée.
Il y a quelques années. On n'est plus à l'époque d'Armstrong protégé par l'Union Cycliste Internationale. On a aujourd'hui des coureurs ciblés au niveau des contrôles. Donc on ne peut pas faire n'importe quoi. Donc tu roules toute une journée, bah, le lendemain tu payes l'addition, c'est tout. Heureusement qu'il n'y a pas d'étape demain, sinon à mon avis c'est les Movistar qui payeraient l'addition.
Mais oui, les Movistar ont compris, il y avait journée de repos demain, donc ils ont attaqué et ils vont pouvoir se refaire la cerise.
On retrouve le cyclisme un petit peu dans le temps, hein, les grands coups de bambou, des exploits, et puis le lendemain, ben voilà, c'est un peu moins bien. C'est le Tour de France, c'est le cyclisme, mais bon, un leader comme Froome, c'est pas étonnant de le voir comme ça aujourd'hui, hein. Il a fait voir ses vraies valeurs hier, et puis c'est un vrai leader, c'est un garçon qui veut gagner le Tour de France.
Mais malheureusement, on est déçu
comme tous les jours.
On est déçu que les autres n'allaient pas plus harceler dans les deux
derniers. Comme le dit Cyril, il aurait fallu attaquer au moins deux cols avant le dernier, quoi. Il fallait quand on voit les équipiers de Froome sauter un par un, il fallait pas réagir à trois bornes du sommet de la Hourquette, le dernier col, c'est fini. Ouais. C'est fini, c'est trop tard.
Allez, 4 km de sang de l'arrivée. Fred est toujours nos deux hommes de tête qui vont probablement se disputer la victoire d'étape car ils ont encore un petit matelas d'avance sur l'avant-garde du peloton maillot jaune.
Dan Martin, Irlandais, grimpeur de son état de l'équipe Garmin Sharp qui emmène dans sa roue le Danois Jakob Fuglsang, leader de l'équipe Astana. Jakob Fuglsang qui ne se fait pas prier pour prendre un nouveau relais. Il compte 37 secondes d'avance à moins de 4 km de l'arrivée. On est dans la vallée en direction de Bagnères de Bigorre en parallèle à l'Adour actuellement, cette vallée qui a été sinistrée ces mois derniers. Eh bien, le soleil est revenu dans le département et le soleil pourrait s'appeler Fuglsang ou Dan Martin là-bas dans cette cité thermale de Bagnères de Bigorre. Le groupe maillot jaune est emmené tour à tour par un coéquipier de Cadel Evans chez BMC, à savoir le Suisse Morabito, le grand hollandais Robert Gesink, coéquipier du surprenant Mollema, le hollandais, et puis à l'instant on aperçoit à nouveau ce grand hollandais Robert Gesink. Les Movistar se mettent à nouveau au travail pour favoriser les dessins de leur leader Alejandro Valverde. Ils sont encore 3 dans ce groupe maillot jaune qui compte 21 coureurs, dont on le rappelle l'ensemble des favoris, c'est-à-dire Contador, Froome, Andy Schleck, Joaquin Rodriguez, Cadel Evans, mais aussi les deux Français Jean-Christophe Perrault et Hubert Dupont, coéquipiers de la formation AG2R La Mondiale. Le grand battu du jour s'appelle Richie Porte qui pointait au deuxième rang du classement général ce matin. Il a totalement pris l'eau aujourd'hui au même titre que l'équipe Sky, excepté Christopher Froome. Porte qui navigue à près de 14 minutes.
Deux hommes pour la victoire d'étape, le Danois Fuglsang de la formation Astana et Dan Martin, l'Irlandais. Les deux hommes qui possèdent encore 36 secondes d'avance alors que nous sommes seulement à 2 km 600 de l'arrivée. La victoire d'étape va se jouer entre ces deux hommes que Chris Froome a laissé partir tout à l'heure, hein. Il n'allait pas rouler derrière tout le monde non plus, hein.
Oui, c'était dans le final de l'ascension de la Hourquette dans 6 ans et il y a eu effectivement un moment de temporisation quand le groupe maillot jaune est revenu sur les échappés du jour. Le dernier escapé s'appelait Romain Bardet, un néophyte du Tour de France, jeune grimpeur auvergnat de l'équipe AG2R La Mondiale, 22 ans, et qui a été le dernier à résister. Extraordinaire potentiel de ce Romain Bardet qui avait déjà pris une très belle 14e place hier en direction d'Ax 3 Domaines. On le surveillera, on aura l'occasion d'en reparler. Et au moment de la temporisation, à 2 km du sommet de la Hourquette dans 6 ans, Dan Martin a été le premier attaqué, rejoint par Jakob Fuglsang. Les deux hommes qui sont désormais à 2 km de l'arrivée et qui continuent d'unir leurs efforts. Ils ont course gagnée, 30 secondes d'avance sur le groupe maillot jaune.
30 secondes d'avance sur le groupe maillot jaune qui est en file indienne. Le groupe maillot jaune dont personne ne tente de s'extraire. D'ailleurs, Chris Froome est installé en 10e position environ. Il n'a pas l'air très inquiet, Chris Froome. Il récupère des efforts consentis aujourd'hui. Ils ont été nombreux, ces efforts. Mais Chris Froome peut être rassuré, Lucho. C'est vrai que la journée, finalement, aura été.
Oui.
Pour lui, personnellement. Hein.
Je pense qu'ils ont fait un petit peu dans leur pantalon à un moment donné, hein, pendant l'étape. Mais là, maintenant, maintenant, ça y est, hein, il reste 1,5 km pratiquement pour les deux hommes de tête. Froome, bien calé dans les roues derrière. Voilà. Je crois que la journée de repos, elle va bien tomber pour tout le monde demain. Ça va permettre de pouvoir faire faire un petit peu le bilan de la première semaine et de savoir exactement au niveau de la tactique de course qui risque de se passer dans les 15 prochains jours, surtout la deuxième semaine, parce que c'est pas évident non plus. Donc voilà, mais écoute, maintenant on va assister à une victoire soit de Fulsang, soit de Dan Martin.
Voilà, alors que la flamme rouge se rapproche pour nos deux hommes de tête qui vont passer sous la banderole indiquant le dernier kilomètre dans quelques secondes. La flamme rouge du dernier kilomètre.
Intégral Tour, la flamme rouge.
Martin contre Fulsang, Fulsang contre Martin. Duel donc pour une victoire d'étape, Fred.
À 900 mètres de l'arrivée à Bagnères-de-Bigorre, on a un match de pistard, une arrivée au sprint entre deux coureurs. On se croirait dans un tournoi de vitesse individuelle. Qui du Danois Jakob Fulsang, ancien meilleur ami des frères Schleck chez Radio Shack et aujourd'hui leader de l'équipe Astana, ou de Dan Martin, le petit grimpeur irlandais qui avait créé la sensation au printemps dernier en remportant Liège-Bastogne-Liège, la plus belle, la doyenne des classiques. Qui va s'imposer? Il compte encore 30 secondes d'avance sur le groupe maillot jaune et pour l'instant c'est Jakob Fulsang, le Danois qui réside au Luxembourg, qui emmène ce duo tête, mais ces deux-là sont à 30 km/h à peine. On s'observe Dan Martin qui la joue fine, qui patiente jusqu'au dernier moment, mais il lance peut-être d'un peu trop loin le petit grimpeur irlandais de l'équipe Garmin Sharp, neveu de Stephen Roche et donc cousin de Nicolas Roche. Dan Martin qui prend le dernier virage à gauche en tête et qui lance le sprint de loin. 200 mètres à parcourir encore. Dan Martin, l'irlandais de l'équipe Garmin Sharp, qui s'impose ici à Bagnères-de-Bigorre en devançant Jakob Fulsang. Extraordinaire victoire de Dan Martin qui devance Jakob Fulsang, lui qui avait déjà remporté une étape du Tour d'Espagne en montagne, cette fois arrivé dans la vallée. Derrière, le groupe maillot jaune est emmené par Joaquin Rodriguez, le grimpeur espagnol. On va jouer battu dans ce groupe des favoris. Rodriguez, me semble-t-il, fait 3 devant Michal Kwiatkowski. Cadel Evans est 6e. Christopher Froome est arrivé bien au chaud dans ce groupe des favoris. On le trouve, on le rappelle, Cadel Evans, mais aussi Alberto Contador, Alejandro Valverde ou Jean-Christophe Perrault. Le Hollandais Mollema est également là, mais surtout Christopher Froome qui l'a échappé belle. Bravo la gestion du leader du classement général, le Britannique de l'équipe Sky, qui a montré que même sans équipier aujourd'hui, il pouvait tenir la baraque. Parfaite gestion de cette journée piège pour Christopher Froome.
Très bien, avant de partir derrière la ligne d'arrivée, il y a une balle de 7 pour Andy Murray en finale du tournoi de Wimbledon, Eric Salio.
Oui, balle de premier set pour Andy Murray. Après 58 minutes de jeu, l'Écossais mène 5-4, 40-0. Et voilà, c'est fait à 7-0 pour Andy Murray dans le délire que vous imaginez. Mais la route est encore longue pour l'Écossais. Il fait très chaud et c'est vrai que Djokovic ne semble pas au mieux. Ça peut être un élément important.
Très bien, merci Eric. À tout à l'heure, évidemment, on va te donner plus la parole à partir de maintenant. Mais nous allons derrière la ligne d'arrivée. Alejandro Valverde est au micro de Pierre-Yves.
A él le has visto debilitado.
On a fait ce qu'il fallait pendant toute l'étape.
Non, pero
c'est comme ça.
Si l'équipe l'a vu un peu tocado, ya veremos.
Gracias. Oui, si l'équipe avait réussi à me ramener sur la tête, j'aurais pu jouer la victoire d'étape.
Voilà, j'ai entendu contento, ça veut dire content plutôt.
Bien
non
sûr, mais ah ouais, contento dans les mots, hein, je ne suis pas sûr que ce soit le cas dans les faits.
Pierre-Yves,
on va essayer d'écouter Alberto Contador, je vais me rapprocher pour tendre le micro.
Nos hemos podido permitir ir más cómodos y bueno, mira, todavía queda mucha carrera y esperemos ir a...
Ah, aujourd'hui c'était une journée folle et il y a eu beaucoup de courses et bueno, l'essentiel était que je sois encore là.
Están bastante ici mejores hoy que las que tuve ayer eran pésimas. Y bueno, eso pues sí que te da confianza, pero bueno, las diferencias son muy grandes que hay ahora en la general, pero bueno, sí que es verdad que queda todavía mucho hasta París.
Voilà. On sort des Pyrénées, c'est vrai que les différences au classement général sont conséquentes à cause de l'étape d'hier, mais il reste un long chemin avant Paris.
Únicamente ha tenido que salir a los ataques de Nairo Quintana, que ha probado un poco, tampoco ha probado con mucha convicción. Yo creo que eso es bueno, ¿no? Porque al final hace que...
Il y a eu pas mal d'attaques dans le final, notamment celle de Nairo Quintana, qui a attaqué à plusieurs reprises. Et heureusement, on a tenu le coup. Maintenant, grâce à cette journée de repos qui arrive, il va falloir qu'on profite.
Bueno, primero de todo tengo que descansar, recuperarme.
Voilà, se reposer.
Y hacerlo lo mejor que pueda. Froome está muy
bien. Bien s'entraîner, bien récupérer.
en Dauphiné, pero bueno, vamos a ver cómo
y faire le mieux possible dans les Alpes.
Todos estos primeros 9 días
pendant le dernier todo, Dauphiné.
¿No? En función de cómo salgamos de allí, pues veremos que qué táctica no empleamos.
Alors, on a encore le temps d'établir une nouvelle tactique avant les Alpes. On ne sait pas encore ce qui va se passer.
Voilà la réaction d'Alberto Contador avec Quintana qui passe à côté de nous avec son maillot blanc. On le retrouvera tout à l'heure du côté du podium, tout comme je crois Romain Bardet, me semble-t-il, qui doit être le combatif du jour qu'on pourra entendre dans quelques minutes. Et Chris Froome, évidemment, lui aussi est reparti derrière la zone protocolaire.
Alors il y a des évidemment changements au classement général, au classement du maillot jaune, avec Chris Froome qui reste évidemment ce soir leader de ce Tour de France, mais son nouveau dauphin se nomme Alejandro Valverde, qui est donc deuxième avec un retard d'une minute 25. Troisième, le néerlandais Mollema avec un retard d'une 44. Tendam, l'autre coureur de la formation Belkin, est à 1,50. Alberto Contador, sixième à 1,51. Et Quintana, septième avec un retard de 2,02. On attend évidemment de savoir où sera Richie Porte, mais il est d'ores et déjà battu pour le classement de ce Tour de France. Il est 16h17. Nous sommes avec Jean-Christophe Perrault derrière la ligne d'arrivée. Jean-Christophe Perrault, le meilleur français au classement général.
Jean-Christophe, juste un petit mot. Jean-Christophe, en direct sur RMC, on va se mettre à côté de vous. Bon, une journée où vous avez réussi à suivre la roue des meilleurs pendant une bonne partie de l'étape.
Ouais, ben, c'était le but aujourd'hui d'essayer de rester au contact des meilleurs. C'est chose de faite, même si ça n'a vraiment pas été facile.
C'était un rythme un peu fou, une étape un peu folle.
Oui, je pense qu'il y avait un beau début de course. Voilà. Après, je pense que ça a mal été exploité. Le fait que Froome soit esselé, ça a été très très mal exploité à mon avis. Et on a plus défendu son maillot aujourd'hui qu'autre chose.
Voilà, les Movistar n'auraient pas dû rouler comme ça devant.
Ouais, je pense qu'ils auraient eu meilleur temps de jouer sur un outsider en les envoyant devant. Au moment, on était 17 à l'avant avec deux Movistar, deux Saxo. C'était l'occasion de faire basculer la course. Ils l'ont pas saisi, à mon avis.
Merci Jean-Christophe, voilà, qui a la même impression que Cyril tout à l'heure.
Évidemment. L'impression de gâchis, Cyril. Un peu de gâchis aujourd'hui. Il y avait de quoi faire, il y avait de quoi inquiéter Chris Froome. Il y a eu de belles choses en début de course et puis malheureusement, ils n'ont pas réussi à poursuivre dans ce genre-là.
Non, ils n'ont pas tenté, ce qui est différent. À partir du moment où il y avait des banderies qui étaient placées, on était sur le point de rupture. Et d'un seul coup, ils ont hissé le drapeau blanc. Ils se sont mis à la barre, ils sont devenus les équipiers du leader. Je ne vois pas, quand on a une telle occasion de le mettre en difficulté, de lui reprendre du temps, on ne l'aurait pas repris 5 minutes. Et quand on sait que, par exemple, pour un coureur comme Valverde, qui est maintenant deuxième au classement général à 1,25, attendez, là-bas, sur les plages du Mont-Saint-Michel, Valverde, il va s'en prendre deux, quoi. Donc il va se retrouver à 3,30. Ne pas tenter quelque chose ou envoyer Quintana. Alors en plus, Quintana, qu'est-ce qu'on fait ? Il fait même plus les classements de la montagne. Il arrivait, il y avait encore des points à passer. S'il était troisième dans la bordure qui tournait, ben il passait troisième du peloton. Attendez, il est leader du classement des maillots jaunes. Il pouvait faire le classement de la montagne, mais il s'en fout. Et uniquement pour venir deuxième au classement général. Mais c'est d'un ridicule. C'est d'un ridicule dans une course comme le Tour de France.
Oh, il est énervé. Il est énervé, notre druide international.
Je suis pas énervé en tant que tel. Mais attendez, il y a un moment, il faut que les auditeurs ils comprennent qu'aujourd'hui, l'équipe Movistar, ça a été la succursale de Sky.
Très bien. Très bien. Nous revenons évidemment dans quelques instants ici sur la ligne d'arrivée à Bagnères-de-Bigorre au terme de cette 9e étape remportée donc par l'Irlandais Dan Martin de la formation Garmin. Le maillot jaune reste sur les épaules de Chris Froome, mais son nouveau dauphin n'est plus Richie Porte. Il s'agit de Valverde. À tout de suite dans quelques instants sur RMC.
Intégral Tour, Christophe Cessieux.
16h24, toujours en direct de Bagnères-de-Bigorre au terme de la 9e étape de ce Tour de France remporté donc il y a quelques minutes par Dan Martin, le petit Irlandais de la formation Garmin qui s'est imposé devant le coureur danois Fuglsang. Il a un nom imprononçable. Avant de faire un point complet, un petit détour par Wimbledon, c'est la finale de ce grand tournoi du Grand Chelem entre Andy Murray et Novak Djokovic, et c'est toute l'Angleterre, tout le Royaume-Uni, Eric Salio, qui retient son souffle car Andy Murray est devant.
Et oui, le center court pousse derrière Andy Murray qui mène une manche à 0, 6 jeux à 4, il se retrouve
retrouve exactement dans la même situation que l'an dernier lorsqu'il avait décroché la première manche face à Roger Federer. Mais on s'en souvient, derrière, le Suisse avait superbement réagi pour empocher le titre en 4 manches. On va voir si Novak Djokovic est aussi costaud que le Suisse l'an dernier. Mais c'est vrai que la chaleur semble l'accabler. C'est pas du grand Djokovic et beaucoup de fautes directes. Et Andy Murray, pour l'instant, en profite. Donc 6-4, Murray, 1-0 Djokovic, mais pas break.
Merci Eric, à tout à l'heure. Retour ici donc à Bagnères de Bigorre. Nous sommes derrière la ligne d'arrivée. On rappelle tout d'abord le résultat de cette étape, Fred, et la victoire d'un Irlandais, cousin avec un autre Irlandais très célèbre et surtout neveu d'un énorme Irlandais vainqueur d'un Tour de France.
Il s'appelle Dan Martin, il a 26 ans et il a remporté au printemps dernier l'une des plus belles classiques qui soit, la Doyenne Liège-Bastogne-Liège, et il devance ici à Bagnères de Bigorre au terme d'une journée folle le Danois Jakob Fuglsang, son coéquipier, son compagnon d'échappée, pardon. Ils ont terminé avec une vingtaine de secondes sur le groupe des favoris, réglé par l'Espagnol Moreno, le Polonais Kwiatkowski est quatrième, Rodriguez 5, Cadel Evans 6, mais c'est secondaire ce qui s'est passé aujourd'hui. Donc c'est de voir que Christopher Froome a réussi à résister sans équipier.
Pierre-Yves Leroux avec le champion de France derrière la ligne d'arrivée.
Arthur Michaud qui répond aux premières questions. Il vient de passer la ligne.
Je pense qu'il a plus craqué dans la tête qu'autre chose.
Il a été très vite distancé, hein. C'est inquiétant.
Bah, de toute façon, voilà, le général c'est fini, mais je veux dire, la tour n'est pas finie. S'il arrive à décrocher une étape, ça sera quand même un beau Tour de France, donc il ne faut pas baisser les bras. Et c'est un grand coureur, et je pense que, enfin, j'espère en tout cas, il va relever la tête et il va nous démontrer qu'il a des grandes qualités.
On parle de Thibaut Pinot, hein.
Non, je pense pas, qu'il était dans la première échappée de 20 dans le premier col, je l'ai vu, ça allait pas trop mal. Après, peut-être s'il est, je sais pas. Faudrait lui demander, mais voilà, c'est dommage.
Qu'est-ce que ça roule vite, hein, devant là, les favoris, ils traînent pas, hein.
Bah, aujourd'hui, je sais pas, je suis pas une grande expérience dans le vélo, mais c'était une étape que j'ai rarement vue aussi décousue avec dans la vallée un peloton avec juste Froome et sans équipier qui se flinguait de toutes parts. C'était un peu une course de cadet et je pense qu'il y en a partout aujourd'hui et c'était vraiment une belle course, hein, je pense, mais dur.
Vous vous sentiez bien en début d'étape?
Bah, je suis pas un grimpeur, donc voilà, par rapport à mes prédispositions aux montagnes, j'étais pas trop mal, donc je me suis fait un petit peu plaisir en sortant en contre-attaque. Et voilà, c'est toujours plaisant de montrer le maillot aussi, quoi.
Vous connaissez bien.
On imagine qu'elle est là après une première vraiment difficile.
Ouais, elle est la bienvenue. En plus, là, on a un transfert, donc ça va accumuler encore de la fatigue. Entre les transferts en Corse, la chaleur, la nervosité de la première semaine. Et puis de la montagne dès la première semaine, donc c'était vraiment une 8 premières étapes difficiles pour tout le monde. Donc,
tu ressors déjà vraiment émoussé de cette première semaine. Tu sens que tu as puisé déjà dans tes réserves?
Bah, je pense que tout le monde est fatigué avec une étape comme ça.
Maxime Montfort disait que c'est peut-être le jour le plus difficile qu'il ait vécu sur le vélo. Est-ce que c'est le cas pour toi aussi?
Non, parce que j'avais de bonnes jambes, donc ça allait. Donc de ce côté-là. J'ai bien choisi mon jour pour ramener bonnes jambes, mais c'est vrai que je pense que celui qui n'était pas bien aujourd'hui, ça a dû être une galère.
Vous évoquiez Thibaut tout à l'heure, que vous connaissez bien, c'est votre ami. Il y a des mots à trouver. Hier, vous avez essayé de le réconforter, ou c'est compliqué dans ces situations-là? Il faut mieux le laisser un petit peu seul par rapport à sa situation difficile.
Bah, on essaie de le réconforter, c'est sûr. De toute façon, nous, équipiers, l'équipe en général, on est tous derrière lui. Voilà, je veux dire, c'est humain de faire pas des erreurs, mais de se louper. Je veux dire, il a 22 ans, c'est aussi pas logique, mais c'est, voilà, on va pas lui jeter la pierre pour ça et on sera toujours derrière lui. De toute façon, c'est pas le souci.
Vous lui dites vive les Alpes?
Ouais, j'espère pour lui qu'il sera bien dans les Alpes. Ce qui est bien, c'est que là, voilà, il va avoir 4-5 jours pour récupérer, pour changer un peu les idées. Et puis, je pense qu'on va le revoir d'attaque dans la dernière semaine.
Merci Arthur Michaud avec son maillot de champion de France derrière la ligne. Très bien. Arthur Vichot, donc le champion de France, qui évoquait, Fred, cas de son leader, Thibaut Pinot, qui vraiment est passé complètement à côté dans ces deux étapes pyrénéennes. Hier, on l'a vu vraiment en difficulté dans les descentes. Et aujourd'hui, en difficulté dans les montées, il n'y est plus. Dans la tête, il n'y est plus.
Non, Thibaut Pinot, qui n'a toujours pas franchi la ligne, alors que le vainqueur Dan Martin, l'Irlandais, en a terminé depuis bientôt un quart d'heure. Thibaut Pinot, qui effectivement a été victime de la course folle, lui qui n'est pas le plus habile, le plus adroit sur un vélo, mais avec le moteur qu'il a, il aurait pu compenser. On a vu des coureurs esselés parfaitement résister aujourd'hui, en particulier Christopher Froome, qui termine sans avoir rien perdu au classement général, malgré une défaillance de son équipe tout entière. Rappelons que Richie Porte, qui était deuxième au classement général ce matin, a terminé avec plus de 14 minutes de retard ici à Bagnères-de-Bigorre. Richie Porte qui a totalement sombré 24 heures après avoir créé la sensation à Axe-Trois-Domaines en prenant la deuxième place. Un point sur les classements. Victoire donc de Dan Martin, l'Irlandais, devant son compagnon d'échappée Jakob Fuglsang, le Danois. Au classement général, pas de changement. Christopher Froome reste en jaune. Maillot blanc de meilleur jeune, toujours sur les épaules de Nairo Quintana, le Colombien, coéquipier de Valverde, qui a travaillé pour son leader aujourd'hui et qui, du coup, n'a jamais réussi à décramponner les favoris malgré quatre attaques dans la Ourcade dans 6 ans. Et le maillot à poids est toujours sur les épaules de Pierre Roland, qui était à égalité de points avec Christopher Froome ce matin et qui s'est glissé dans une longue échappée aujourd'hui.
Il a pris des points.
Et du coup, c'est bel et bien cela son objectif, lui qui a terminé à plus de 6 minutes ici à Bagnères-de-Bigorre. Je vous parlais de Richie Porte. Il a terminé à l'instant à 18 minutes du vainqueur du jour, soit 17 minutes 30 derrière l'ensemble des favoris. Grand sourire sur le visage, Richie Porte, probablement parce qu'il a bien compris que son leader Christopher Froome a gardé le maillot jaune. Demain est un autre jour pour les coureurs de l'équipe Sky.
Voilà, et les rapports entre Porte et Froome ne sont pas du tout les mêmes que ceux qui unissaient, si on peut dire. Si on veut parler comme ça, Wiggins et Froome l'an dernier, Richie Porte est quasiment le meilleur ami de Chris Froome. Il s'est mis entièrement à son service. Il aurait pu, dans d'autres circonstances, peut-être être le leader de cette équipe et remporter le Tour de France. Hier, il s'est mis à la planche pour son leader. Aujourd'hui, il a payé les pots cassés. Il est donc out pour le classement général. Mais soyez-en sûrs, il sera là dans les Alpes pour épauler son leader. À noter le classement de la combativité aujourd'hui attribué à Romain Bardet.
Jeune coureur néophyte du Tour de France, 22 ans. Coureur de l'équipe AG2R La Mondiale, longtemps échappé. Il a été le dernier à résister au retour du groupe maillot jaune lancé à très vive allure. Romain Bardet, dont on aura l'occasion de reparler, lui qui avait pris la 14e place hier à Axe-Trois-Domaines, originaire de Brioude, un excellent grimpeur au potentiel vraiment intéressant et important, 22 ans seulement.
Très bien, il est 16h32, on va revenir dans quelques instants ici sur la ligne d'arrivée. On va faire un nouveau détour tout de même par Wimbledon, car vous le savez, cet après-midi, c'est la finale du tournoi masculin. Elle oppose Andy Murray à Novak Djokovic. Nous sommes, Eric Salio, dans la deuxième manche.
Oui, nous ne sommes qu'au début de la deuxième manche, puisque on joue quand même depuis 1h17 et le score n'avance guère vite. 6-4 Murray, 2-1 Djokovic dans le deuxième set. C'est malheureusement une finale à laquelle on s'attendait sans éclat, sans étincelle. Les deux joueurs se connaissent trop, quoi. Voilà, et ils jouent sur leur physique. Je pense que ça va être une guerre d'usure, mais pour l'instant, ce petit jeu-là, c'est Andy Murray qui se montre le plus fort, mais ça peut tourner à tout moment. 7-0 Murray, 2-1 Djokovic dans le deuxième.
Très bien, Eric, à tout à l'heure pour la suite de cette finale. 16h33, on revient dans un instant sur la ligne d'arrivée ici à Bagnères-de-Bigorre. À tout de suite.
RMC jusqu'à 18h, Intégral Tour, Christophe Cessieux.
Allez, nous repartons derrière la ligne d'arrivée. Pierre Roland, porteur du maillot blanc à pois rouge de leader de la montagne.
Enfin, qu'on attendait, quoi, ni en Corse, ni à Montpellier, ni un peu hier. Donc hier, tout le monde a vu que Froome était au-dessus et aujourd'hui, voilà, les consignes étaient simples, c'était d'essayer de l'isoler au maximum. Mais ça a vraiment fait une course de folie. Les Garmin, les Movistar, la Saxo Bank aussi ont vraiment mis un cran au-dessus pour. Ben voilà, ils ont réussi à voir Richie Porte. Voilà, ça fait déjà un de moins pour eux. Ça a vraiment été une course très très difficile. On a réussi à s'estirpé à un moment donné avec Romain Bardet, qui est un excellent coureur, qui a éclaté aux yeux du grand public aujourd'hui. Mais bon, dans le milieu, on le savait déjà que c'était un très bon. Et voilà, j'ai pu prendre peut-être une dizaine de points maintenant d'avance sur Froome. Voilà, et ça dépendra maintenant s'il gagne tous les sommets, toutes les arrivées en altitude, ce sera compliqué. Mais si c'est pas le cas, en tout cas, je me battrai maintenant jusqu'au bout pour essayer de remporter une étape, briller avec la team Europcar et garder ce maillot à poil le plus loin possible.
Vous avez le sentiment que tout est relancé un peu dans ce Tour de France après les conclusions peut-être hâtives d'hier soir?
Bah, hier soir, j'avais dit à la presse que s'ils attendaient tout le temps la dernière ascension, ils se feraient battre à chaque fois. Donc, je pense que le message dans les équipes est passé. S'ils veulent gagner le tour, s'ils veulent avoir une chance, faut attaquer de bonheur.
Il faut le spécialer en plus, hein, maintenant.
Ah bah oui, mais c'était vraiment moi personnellement, j'ai rarement vu une étape comme ça. C'était de la folie, quoi. Dès la première ascension, le deuxième KT, on n'était plus que 25 coureurs. C'est jamais revenu, je pense. De mémoire, j'ai jamais vu ça.
En cadet, peut-être?
Ouais, peut-être en cadet quand on était 50 au départ.
Repos, ça tombe bien. Hein,
ouais, ça va faire du bien. Il y a un long transfert, on le sait, mais demain, on va souffler et ça va faire du bien. Il va y avoir quelques étapes un peu plus tranquilles aussi.
Merci. Pierre, vous passez à la maison rapidement ou pas?
Pas de passage à la maison.
On va se concentrer, on va pas rentrer à la maison. Pourtant, ils sont pas très loin, Pierre.
Il est un petit peu plus loin, Pierre Roland.
Oui, il est
pas passé en Vendée, lui.
Ah, non, c'est vrai, il est en Léon. Et en revanche, peut-être que Thomas Vauclair passera à la maison, même si sa maison le suit pendant le Tour de France, puisque son épouse avec son petit sont dans un camping-car et qu'ils suivent les exploits de leur papa ou de leur mari, même si des exploits, pour l'instant, il n'y en a pas eu. Fred, on va rappeler le résultat, même s'il y a encore des groupes qui arrivent. On va surveiller, d'ailleurs, avec attention les délais aujourd'hui, parce que il y a des garçons qui sont très très loin. Ça devrait rentrer a priori.
Oui, Thibaut Pinot vient d'en terminer à 25 minutes et le groupe Eto en termine lui à 28 minutes avec Mark Cavendish. Tout le monde est dans les délais, il n'y aura pas de problème. Ils pourront eux aussi profiter de la journée de repos en gardant un jeu de dossard dans leur valise. On ne rentre pas à la maison ce soir pour la grande majorité des coureurs. Victoire donc ici à Bagnères-de-Bigorre au terme de la 9e étape, la 2e dans les Pyrénées, de l'Irlandais Dan Martin. Il a 26 ans, c'est le neveu de Stephen Roche et donc le cousin de Nicolas Roche, coéquipier d'Alberto Contador. Ce Dan Martin est peut-être un inconnu du grand public, mais pas des spécialistes de vélo, loin de là, puisque il y a 2 ans il avait remporté une étape de la Vuelta au sommet de la Covatilla et surtout au printemps dernier il a remporté la doyenne des classiques, la plus belle peut-être Liège-Bastogne-Liège, au nez et à la barbe des favoris. Il sait presque tout faire, Dan Martin, excepté rouler, bien sûr. Il a devancé son compagnon d'échappée, Jakob Fuglsang. Le maillot jaune reste, bien sûr, sur les épaules de Christopher Froome.
Dan Martin qui est en approche, là-bas, dans la zone protocolaire, avec Pierre-Yves Leroux. Dan Martin, vainqueur aujourd'hui. Est-ce qu'il parle français?
Bien sûr.
Oui.
Bien sûr, il a fait ses classes, tout comme Daryl Impey, au WC La Pomme Marseille.
Le voilà, Dan qui s'approche de nous. Dan, on imagine que c'est comme un rêve, là, aujourd'hui.
Oh, c'est pas vraiment un rêve, c'est une réalité maintenant, mais bon, c'est... Ouais, c'est... Moi, je suis un fan de vélo aussi. Aujourd'hui, on a décidé qu'on voulait faire le spectacle un peu. Le Garmin Sharp, on voulait détruire la course, et peut-être on n'a pas bien aimé ce soir avec toutes les autres équipes, mais on a fait ce qu'on voulait. Et enfin, on a gagné l'étape aussi, alors c'est une super journée pour l'équipe.
Ça a fait une course folle.
Ouais, exact. J'ai attaqué dans le premier côte, le deuxième boss. C'était dur pour tout le monde. Alors, je savais ça dans le final, que tout le monde était cramé. Et si tu rappelles hier, c'était une attaque très dure. Et moi aussi, j'ai souffré hier. Mais aujourd'hui, j'ai chanté très bien. Et enfin, ouais, on a gagné. Alors, c'est super.
C'est le tonton qui doit être content, Stephen Roche.
Ouais, je l'ai vu là, au podium. Ouais, c'est sûr qu'il est content. Mais maintenant, moi, je suis le dernier Irlandais à gagner une étape. Alors, ça fait un grand plaisir pour toute la famille.
Heureusement qu'il y a le repos demain.
Hein. Ouais, mais je vais avoir besoin.
Qu'est-ce que vous avez ressenti quand vous avez franchi la ligne, Dan?
Je sais pas, c'est juste. j'étais confiant dans le sprint à gagner, mais il fallait toujours, c'était un peu le... Ouais, j'étais content à le faire parce que je savais que j'aurais être le favori pour le sprint. Et voilà, j'ai eu du succès dans le sprint, alors c'est, ouais, c'est incroyable.
Vous êtes longtemps observé, hein.
Pardon ?
Vous l'avez observé longtemps.
Je ne sais pas senti comme c'était longtemps. J'ai laissé rouler le dernier kilomètre, je pense. Alors, je savais qu'on avait une bonne petite car derrière. Alors j'ai eu le temps et je n'ai jamais retourné une fois. J'étais focus pour son roue et pour l'arrivée.
Merci beaucoup Dan Martin, qui effectivement parle un très bon français.
Je suis complètement cramé, dit-il Dan Martin, qui est ce soir 8e au général, hein, à 2,28. Il est dans le coup, sait-on jamais, même si évidemment dans le contre-la-montre du Mont-Saint-Michel dans 3 jours, ce sera plus difficile pour lui, Fred.
Dan Martin, 26 ans donc, qui n'est peut-être pas capable de remporter un Tour de France parce que limité sur le contre-la-montre, mais qui est un dynamiteur professionnel. Il est capable d'attaquer dès que la route s'élève et de faire beaucoup mieux puisqu'il s'est imposé aujourd'hui dans la vallée. Lui qui avait remporté une étape de la Vuelta à la Covatilla tout là-haut, il sait presque tout faire.
Un autre garçon dont on a beaucoup entendu parler depuis hier, c'est Quintana, Nairo Quintana, leader du classement déjà dans l'espagnol.
Richie Porte, el compañero de Chris Froome. Chris Froome ha ido solo en el grupo delantero durante toda la jornada. Ese era un objetivo. La etapa era otro.
Sí, era el objetivo para que él quedara solo y poderlo probar, pero ya lo probamos y
on a essayé.
Y se ve que está bastante fuerte.
Tout ce qu'on a pu, mais
hemos visto a ti intentarlo en varias ocasiones. No
Christopher
sé si
était vraiment très fort.
O era solamente por desengrasar un poco y ver cómo estaba.
No, había que mirar y probar los rivales.
Il fallait regarder,
débil,
observer les rivaux.
Y nada, pues había que probar.
Il y avait qu'à essayer. Pas très à l'aise face au micro, Nairo Quintana.
Sí, no eran ataques de esos, pero no, fue una etapa bastante
les autres
larga
n'ont pas vraiment attaqué.
Dura.
C'était une étape longue et dure.
Las fuerzas estaban como ayer.
Alejandro es ahora segundo en la general. A partir de ahora, el Movistar trabajará para los dos. Hay un objetivo.
Mes jambes étaient comme hier, en fait.
Trabajaremos para Alejandro.
On a vraiment travaillé aujourd'hui pour Alejandro Valverde.
Pour récupérer du temps.
Pour récupérer du temps au classement général.
Voilà la réaction de Quintana.
Quelle impression il te fait, Nairo Quintana?
À part qu'il ressemble à Georges Quirino, qui est son sosie.
Il est, c'est pas un gros gabarit, hein, vous le voyez sur le vélo.
59 mais, kilos, je crois.
Voilà, oui. Exactement. Il est timide, forcément, un petit peu impressionné. Il a une histoire incroyable, puisque voilà, il est né dans un cadre familial assez pauvre.
Un beau caillard.
Voilà, il a ensuite eu un terrible accident qui l'a plongé 5 jours dans le coma. C'est un peu un miracle. Et voilà, il a aussi, c'est vrai, des difficultés pour répondre un peu aux médias. Il fait des phrases courtes, tranquilles, hein, il est posé.
Basique, ouais. Basique presque, mais on peut le comprendre. Il n'a que 23 ans, ouais. Ce
il
Nairo.
Il n'a pas une tête à avoir 23 ans, je sais
non,
pas.
Non,
il a l'air beaucoup plus
mais
âgé.
Ça marque l'altitude. Hein.
Ah, oui, oui,
vous prenez les visages.
Ils sont toujours plus âgés,
les visages. Allez faire un tour dans l'Himalaya.
Vous allez prendre 20 ans.
Vous verrez à quel point les visages burinés peuvent paraître plus vieux que la réalité, c'est vrai.
Parlez-en à Fred, c'est vrai, Fred. Il y a été un moment.
Chacun ses plaisirs, Luc. Chacun ses plaisirs.
Mais non, mais attends.
Nairo Quintana, 7e au général ce soir, avec un retard de 2 minutes 02 sur Christopher Froome. Il est là tout de même, le petit grimpeur colombien de la Movistar. Mais son leader, lui, est encore mieux placé au général, Alejandro Valverde. Donc, 2e ce soir, dauphin de Chris Froome, avec un retard d'1 minute 25 sur le Britannique de la formation Sky. Il est 16h46. On va faire un nouveau détour par Wimbledon. La finale du tournoi masculin, Murray face à Djokovic et Eric Salio au commentaire.
Ouais, et Andy Murray qui n'est pas parvenu à maintenir son effort puisque il a pris le premier set 6-4 et là il est largement distancé dans le deuxième set, 4-1 pour Novak Djokovic qui pourtant vient se plaindre auprès de l'arbitre parce que il a voulu demander un challenge mais Mohamed Al-Layani a considéré qu'il l'avait demandé un poil trop tard parce qu'une fois qu'il a vu que son revers était sorti, il s'est dit tiens je vais revenir sur la balle d'avant. Non, c'est un peu trop facile monsieur Djokovic et Mohamed Nayani donc ne lui donnera pas raison. Donc 6-4 Murray et je regarde le Hokkaï. De toute façon elle était bonne, donc aucun regret à avoir monsieur Djokovic. Et 4-1 donc pour Novak Djokovic. C'est une finale très décevante, je le dis franchement. Comme en Australie, ils ont les mêmes jeux, voilà, donc ça colle pas. Ça colle pas, c'est pas sympa.
Mais bon. C'est pas sympa.
Il y a une coupe à aller chercher quand même.
Ah
hein.
Oui, et puis il y a pas mal quand même la coupe de Wimbledon.
Elle est belle, elle est belle.
Hein, ça, c'est pas mal. Merci Eric, à tout à l'heure. On vous rappelle également que le Grand Prix d'Allemagne de Formule 1 a vu la victoire tout à l'heure de Sébastien Vettel devant Kimi Raikkonen et Romain Grosjean, le Français qui a terminé troisième sur sa Lotus. Romain Grosjean qui va nous rejoindre dans quelques instants au micro d'Antoine Arnaud. Il doit être ravi évidemment puisque c'est un nouveau podium pour le Français de la formation Lotus. On va rappeler le résultat de cette étape, Fred, et puis les classements donc avec toujours Chris Froome en tête.
C'était la deuxième et dernière étape pyrénéenne du 100e Tour de France entre Saint-Giron et Bagnères-de-Bigorre. Une journée marquée par l'ascension de 5 difficultés, une journée folle parce que dès le début de l'étape, de nombreuses attaques ont permis aux rivaux de Christopher Froome de l'isoler dans le groupe des favoris. Il a perdu 1 à 1 ses coéquipiers de la formation Sky. Tous ont craqué dans la formation britannique, sauf lui, Christopher Froome, qui a répondu aux attaques de Valverde, notamment troisième du général ce matin. Et finalement, c'est dans la dernière ascension, 32 km avant l'arrivée à Bagnères-de-Bigorre, qu'un duo s'est formé. L'Irlandais Dan Martin et le Danois Jakob Fuglsang se sont échappés, observés de loin par les principaux favoris. Le groupe des favoris qui ne comprenait pas l'Australien Richie Porte, qui a lâché près de 18 minutes sur la ligne d'arrivée. Lui qui était deuxième au classement général ce matin, c'est lui le grand battu du jour.
Très bien, nous partons au Nürburgring. Antoine Arnaud, je crois, est en compagnie de Romain Grosjean. Antoine.
Oui, tout à fait, avec Romain dans le paddock. Ici Romain, tu termines sur le podium, troisième position aujourd'hui. On imagine évidemment que tu es très heureux de retrouver ce podium.
Ouais, c'est sûr, ça fait un petit moment que ça voulait pas, qu'il y avait la malchance, le manque de réussite, tout ce qu'on veut qui pouvait se produire sur ma voiture. Et puis là finalement ça y est, ça se met à peu près correctement. On a un super premier relais où je mène la course, c'est une sensation assez incroyable. Ensuite je me bagarre avec Vettel, on est clairement les deux à être plus rapides que tout le monde. Et puis bon, le safety car, ce qui rend notre stratégie un peu plus facile, on se pose plus la question du 2-stop, on passe directement sur un 3-arrêt. Et on a essayé sur le dernier arrêt de jouer, de sauter ce qu'on appelle dépasser Vettel dans les stands. Ça veut pas le faire. Faut que bon, s'il a pas manqué grand chose, il aurait suffi d'un petit souci à leur pit stop et on aurait pu être devant.
Bon, on t'a demandé aussi évidemment de laisser passer ton coéquipier qui est mieux placé, mais on a vu quand même un beau geste de Raikkonen qui est venu te remercier après la course. Est-ce que tu as compris cette consigne?
Oui, clairement. Je crois qu'on avait deux options sur la fin de course. C'était soit mettre les pneus tendres, soit mettre les pneus médiums. Dans mon cas, vu qu'on avait 20 tours à faire, les pneus tendres, non, je pense pas qu'on aurait pu faire la blague. Maintenant Kimi s'est retrouvé dans une super position puisque moi je pourchassais Vettel, lui était juste derrière moi. Il a pu donc profiter de nos deux arrêts au stand pour avoir quelques tours libres sur la fin de ses pneus médiums et sur les derniers tours mettre les pneus soft qui fonctionnaient beaucoup mieux que ce qu'on a vu le vendredi. D'ailleurs sur mon premier relais le prouve clairement, donc c'est vrai que si c'était à refaire on aurait peut-être fait les choses différentes. Maintenant encore une fois on n'a pas mis les œufs dans le même panier puisqu'on savait pas quelle était la meilleure stratégie et c'était intelligent de laisser passer Kimi puisque de toute façon un pneu égaux j'aurais pas pu aller chercher Vettel.
Merci beaucoup Romain, félicitations.
Merci Antoine. Romain Grosjean donc troisième de ce Grand Prix d'Allemagne. Magnifique performance du pilote français de la Lotus. Qu'est-ce qu'on fait? On va récapituler le classement.
Par exemple, puisque Dan Martin s'est imposé devant son compagnon d'échappée ici à Bagnères-de-Bigorre. Dan Martin, il a 26 ans, il est irlandais, coureur de l'équipe Garmin Sharp et il a donc devancé sur la ligne le Danois Jakob Fuglsang, leader de l'équipe Astana. Le groupe des favoris est arrivé à 20 secondes, réglé par l'Espagnol Moreno. Il y avait dans ce groupe évidemment Alberto Contador, Andy Schleck, Cadel Evans, Joaquin Rodriguez, mais surtout Christopher Froome qui a passé la journée tout seul. Son dauphin ce matin au classement général a perdu 18 minutes. Richie Porte est désormais hors jeu au classement général. Le maillot blanc toujours sur les épaules du Colombien Quintana, celui des poids de la montagne sur celle du Français Pierre Roland. Côté français, Jean-Christophe Perrault et Hubert Dupont étaient les deux seuls Français dans le groupe des favoris qui comportait 25 unités. Le grand perdant s'appelle Thibaut Pinot qui est complètement déstabilisé sur ce Tour de France, a perdu 25 minutes aujourd'hui à Bagnères-de-Bigorre.
Terrible désillusion pour Thibaut Pinot et pour son manager Marc Madiot qui avait le masque ce matin et hier soir à l'arrivée. Tiens, si vous êtes aux abords de Bagnères-de-Bigorre, je vous propose d'aller au jardin des Vigneaux. Il y a une manifestation en ce moment des agriculteurs de Bagnères-de-Bigorre qui organise une grande ferme géante avec repas pour tout le monde et tous les bénéfices
seront reversées aux agriculteurs qui ont été sinistrés, vous savez, par les inondations d'il y a quelques semaines dans les Pyrénées. Donc ça se passe au Jardin des Vigneaux, c'est à Bagnères-de-Bigorre. Si vous nous écoutez, allez manger un morceau, vous verrez, ils sont très sympas. 16h52, on se retrouve dans quelques instants, toujours sur la route du Tour qui fait escale ce soir à Bagnères-de-Bigorre au terme de la deuxième étape de montagne.
Intégral Tour, Christophe Cessieux.
Et oui, c'est pas terminé, elle n'est pas terminée cette étape. Si elle est terminée depuis une bonne heure maintenant, mais ne vous inquiétez pas, nous sommes avec vous jusqu'à 18h. Les coureurs vont nous quitter puisqu'ils vont prendre l'avion dans quelques minutes, direction Nantes et Saint-Nazaire, où ils auront une journée de repos demain avant de réattaquer la route après-demain. Les suiveurs, eux, ont juste 700 km à faire dans la nuit pour être demain à l'antenne. En attendant, on vous rappelle donc la victoire de Dan Martin, l'Irlandais de la formation Garmin, qui s'impose ici à Bagnères-de-Bigorre au terme de cette deuxième étape des Pyrénées. Il devance le Danois Fuglsang de la formation Astana. Et puis le peloton maillot jaune est arrivé avec un retard de 20 secondes. Peloton maillot jaune dans lequel on retrouve la plupart des favoris, Joachim Rodriguez, Cadel Evans ou encore Alejandro Valverde, Andy Schleck, Alberto Contador et évidemment le maillot jaune Chris Froome. En revanche, pas de Pierre Roland qui est un peu plus loin, pas de Thibaut Pinot qui est arrivé avec un retard de 25 minutes et pas non plus de Richie Porte qui était hier le dauphin de son leader Chris Froome et qui est arrivé avec plus de 16 minutes de retard. Il ne jouera pas le podium sur les Champs-Élysées dans 15 jours. L'autre événement à suivre cet après-midi, c'est évidemment la finale du tournoi de Wimbledon, tournoi du Grand Chelem. Nous sommes dans la deuxième manche. Andy Murray opposé à Novak Djokovic. Eric, tu t'ennuyais tout à l'heure, tu n'étais pas satisfait du niveau de jeu. Est-ce que ça s'améliore?
Non, parce que le dernier point auquel on vient d'assister, c'est une double faute de Novak Djokovic et elle lui coûte très cher puisque elle a permis à Andy Murray de recoller dans cette deuxième manche, l'Écossais qui n'est plus mené que 4-3, donc il a effacé son break de retard. Et on rappelle qu'il a pris la première manche 6-4, donc là, il est redevenu un vainqueur potentiel alors que depuis 20 minutes, le public avait assisté à un petit peu l'écroulement de son favori puisque Murray s'était retrouvé mené 4-1. Mais bon, il a recollé au score, mais c'est loin d'être fait, mais surtout c'est en termes de spectacle c'est pas folichon, c'est pas flamboyant parce que ils jouent tous les deux de la même manière. Ce sont deux formidables défenseurs. Alors même si Novak Djokovic fait un peu plus d'efforts pour venir au filet, mais c'est pas forcément concluant. Mais bon, ça va se détendre, peut-être que ça va monter en puissance, mais c'est vrai que par rapport au match Djokovic-Del Potro qui était extraordinaire en intensité, en tout, là on reste vraiment sur notre fin.
Mais même la finale d'hier, finalement, Eric, a été décevante au niveau du jeu pratiqué et du suspense. Bien sûr, on a été ravis pour Mario Bartoli.
Du jeu, non, Mario a fait son match.
Ouais, elle a fait son match.
C'est qu'en face, il n'y avait pas grand-chose. Elle s'est écroulée. Parce que pleurer en milieu d'une finale, c'est rarissime. Hein. On se souvient des larmes de Novotna, mais là, Zabine Olizicki n'a pas tenu le choc émotionnellement et Mario a été formidable d'opportunisme parce que elle a failli revenir quand même, l'Allemande. Hein. Ouais. N'oublions pas, 6-5-4, on n'emmenait pas large. Hein. Donc ça aurait pu tourner à tout moment, mais là Marion a été fantastique et on l'a vu ce matin, il y a encore son petit nuage. Hein.
Très bien, tu le dis bien, Zabine Olizicki, merci. Non,
c'est pour chambrer un peu.
Ah, d'accord. Très bien, on te retrouve tout à l'heure après les infos de 17h. Nous aussi on se retrouve après les infos de 17h pour continuer d'analyser cette 9e étape qui a donc vu la victoire de Martin. Froome reste en jaune, mais son dauphin n'est plus Richie Porte, mais bien Valverde. À tout de suite.